Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir plus exactement. Nous allons évoquer des sujets qui, je crois, sont de grande actualité, même si j'ose dire que c'est de mon livre que nous allons parler. D'un livre que j'ai écrit après avoir eu une carrière d'universitaire et une carrière d'éditeur. Et c'est à l'issue de ces deux carrières, je suis aujourd'hui avocat, et c'est dans l'intervalle de ces deux types d'activités, d'une part universitaire et d'autre part éditeur, que j'ai écrit ce livre. Il s'agissait pour moi, comme le dit fort bien d'ailleurs Dominique Richard, j'ai écrit ce livre, comme le dit Dominique Richard, en essayant de réfléchir sur des mots que j'ai pu utiliser ou entendre dans mes longs échanges d'une carrière variée, autour des questions du danger, autour des questions de la précaution. Danger, précaution, ce sont deux mots apparemment très éloignés. Apparemment. Et pourtant, j'ai tenté de les réunir, de les assembler, pour savoir si en les assemblant, justement, on ne pourrait pas trouver quelque chose d'autre, une pensée, une sorte, autour d'un nouveau concept. Voilà, c'est tout le principe des mots, vous savez, quand on les rapproche, ils changent de sens le plus souvent. Ils trouvent un autre sens. Alors, nous allons parler des mots ce soir. Peut-être plus encore que du danger et de la précaution. Mais on évoquera, bien sûr, ces deux mots, ça va de soi. Alors, si vous voulez, ce qui m'a conduit à réfléchir sur ces sujets, c'est tout d'abord un paradoxe. Très honnêtement, on n'a jamais eu autant de garanties, autant de sécurité, autant de garanties qu'aujourd'hui. Dans l'histoire de l'humanité, jamais autant. Et cependant, on n'a jamais autant d'inquiétudes qu'aujourd'hui. On ne parle que des dangers, vous ouvrez les journaux, il n'y a plus que cela. Mais objectivement, jamais notre société n'est arrivée à constituer un système, des dispositifs de protection aussi élevés que ceux dont nous disposons aujourd'hui, il faut le dire. Voilà. Simplement pour ceux qui sont parmi les plus âgés, et même parmi peut-être même les plus jeunes, mais en tout cas, ceux qui ont un retour sur eux-mêmes d'une quarantaine ou une cinquantaine d'années, ils savent bien qu'il y a encore si peu de temps, nous n'en étions pas encore là. Mais il y a d'autres inquiétudes qui se sont créées, d'autres sujets d'inquiétude qui sont venus. Et si il y a dans la salle des médecins, et il y en a, ils savent par exemple que les pathologies sur lesquelles ils sont amenés à travailler ne sont pas plus exactement celles qu'ils connaissaient quand ils étaient étudiants. Les avocats diront la même chose. Il y a des avocats sûrement dans cette salle, oui, peut-être. En tout cas, il y en a qui se sont annoncés et ils savent que les sujets de contentieux, les difficultés qu'ils ont à traiter ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Ça veut dire que les questions changent de nature, mais nous pouvons dire quand même que globalement, grossièrement, à la louche, on a plus de garanties qu'on en avait autrefois. Et comment se fait-il alors que jamais on ait tant parlé de précaution, autant parlé de précaution, comment ça se fait-il? Et c'est, si vous voulez, la raison, l'interrogation qui m'a conduit à aborder ce sujet. Parce qu'a priori, il n'est pas habituel de réunir dans une réflexion ce type d'interrogation. C'est pourquoi je l'ai choisi. J'avais pour moi l'avantage de l'expérience. J'ai rencontré tellement de gens différents dans ma carrière, des gens de tous horizons, que j'étais prêt à comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de certitudes. Ce n'est donc pas un livre de certitudes. C'est un livre de questions. Il n'y a que des questions, essentiellement des questions. Mais comment ces questions se sont-elles posées? Alors là encore, je voudrais faire une pause et vous demander de venir dans ma réflexion, d'entrer avec moi dans ce que je vais dire. Il y avait plusieurs façons d'aborder le sujet. Il y avait la façon classique qu'un universitaire devrait normalement envisager et que j'ai envisagé. C'est prendre le sujet en deux ou trois parties. Une première partie peut être danger, précaution et une belle synthèse. C'eût été quelque chose d'intéressant, mais ce n'était pas le sujet qui m'intéressait. Ce n'était pas la façon. Parce que j'aurais affirmé des vérités, j'aurais lancé des messages, j'aurais dit ce qui est, j'aurais dit ce que je crois, j'aurais lancé des explications définitives. C'est pas, un professeur doit le faire, peut-être à ses étudiants, je ne suis même pas sûr, mais en admettant. J'aurais pris ce plan en deux ou trois parties, j'aurais abordé les sujets comme ça, ça aurait pu être intéressant, mais ça ne me convenait pas. Alors, j'ai décidé de regarder le sujet autrement, par les coins, en biaisant, par les fenêtres, par les portes entrouvertes. Quelles portes entrouvertes? Eh bien, celles de tous les mots dont je vous ai parlé, les mots M-O-T-S, qui sont à la périphérie de la précaution, mais certains sont bien éloignés. Alors, j'ai pris des mots comme le mot abus, comme le mot arbre, comme le mot âme, mais des mots comme plus ambitieux, comme responsabilité, mais des mots encore peut-être qui peuvent vous étonner, comme le mot vide. J'en ai pris comme ça et mes premiers lecteurs m'ont dit, il y en a 67. Il y en a 67, je ne les ai pas comptés. Bien, 67 c'est beaucoup, mais en fait il y en a beaucoup plus. Parce que autour de ces 67 mots, il y a tous les autres qui expliquent ces 67 mots. Et ces 67 mots sont vus, non pas pour eux-mêmes, comme dans un dictionnaire, mais pour éclairer, avec l'intention d'éclairer les mots danger et précaution. Et peut-être d'éclairer chacun des autres 67. Alors c'est un exercice très particulier. Certains m'ont dit, ah tiens, il y a une entrée par les mots, donc c'est un dictionnaire. Mais non, pas du tout. C'est surtout pas un dictionnaire. Puisque un dictionnaire tente à cerner le mot en lui-même, en ce qu'il est. Ce serait peut-être un dictionnaire avec association d'idées, comme le grand Robert, par exemple. Possible, mais ça reste quand même un dictionnaire. Moi, je ne suis pas dans l'idée du dictionnaire du tout. Je suis dans l'idée que le mot est une fenêtre, est un carrefour qui va me permettre de mieux voir tous les autres et surtout ces fameux dangers et précautions. Alors, comment les ai-je choisis, vous allez dire? Il fallait les choisir par la méthode la plus empirique, la plus simple, celle de, vous savez, du promeneur qui ne sait pas où il va et qui emprunte à droite, emprunte à gauche. Bon, trouve des obstacles ici, va essayer de les éviter, ou au contraire est en forme ce jour-là et va les affronter, va passer la butte ou le rocher, voilà, j'en sais rien, j'ai fait comme ça. Parfois, j'ai travaillé sur des mots, je les ai supprimés, parce que je ne trouvais pas qu'ils avaient du sens par rapport à mon intention. J'en ai supprimé pas mal. Mais il y en a certains que j'ai supprimé parce que je leur trouvais une dimension beaucoup trop technique. Il n'y a pas de mot technique. Les professionnels du risque, il y en a quelques-uns dans cette salle, verront qu'il n'y en a pas. Je suis juriste, les mots juridiques, il y en a quelques-uns, mais vraiment très peu nombreux. Pourquoi? Parce que ce sont des mots techniques. Et si je les traite, je ne les traite pas en juriste. Voilà, si vous voulez, le sujet. Donc, on n'est pas du tout dans l'esprit d'un dictionnaire. On n'est pas du tout dans l'esprit d'un dictionnaire. On est dans ce que les savants diraient un système des mots. Vous savez, le système, c'est où? C'est un ensemble où tout est en lien, en interactivité. Chaque élément est indispensable à tous les autres. C'est le système de la vie, c'est le système physiologique, c'est le système mental, c'est le système de tout ça. Non, c'est plutôt le système des mots. Et c'est ce qui explique peut-être que j'ai choisi comme sous-titre le roman des mots. J'avais pensé aussi le chemin des mots, puisque j'ai cheminé. Et puis j'ai enfin décidé que ce serait un roman, parce que dans le fond, quand j'ai eu terminé, que j'ai un peu relu et que j'ai ajouté et supprimé, beaucoup supprimé, j'ai été conduit à voir que j'avais, avec les mots, un rapport de personnage à personnage. Et que les mots étaient non pas des étapes sur le chemin, simplement, mais des rencontres avec des personnages étonnants. Voilà. Alors, c'est pourquoi j'ai 67 personnages dans ce roman. Il y en a qui sont un peu plus importants que d'autres. Certainement, je ne sais d'ailleurs pas trop lesquels. Quand vous les lirez, quand vous lirez ce que j'en dis, peut-être verrez-vous un personnage central. Je ne suis pas sûr que ce soit Danger, je ne suis pas sûr que ce soit Précaution. Je ne sais pas lequel. Certains lecteurs déjà m'ont dit « Ah, vous avez donné beaucoup d'importance à ce sujet-là. » Ah oui, bon, je ne m'étais pas trop rendu compte. Mais le lecteur attend toujours quelque chose qu'il attend. Il lit ce qu'il attend souvent, et il va à ce qu'il attend. Et donc, soit il trouve que j'ai trop dit, soit il trouve, ou pas assez, que je n'ai pas dit assez. Voilà où on en est. Alors, j'aurais presque envie, presque, voyez-vous, de m'arrêter là. Mais je vais continuer, bien sûr. Mais j'aurais presque envie de m'arrêter là parce que, in fine, tout ce que je vais vous dire maintenant, ça ne va que découler de cela, de ce que je viens de dire. Et vous comprenez bien que ça sera second. Le principal a été dit. Voilà. Vous reviendrez avec vos questions et sûrement que vous m'interrogerez sur un certain nombre de ces mots qui sont censés éclairer, sont censés donner du sens, sont censés donner de la perspective, sont censés expliquer peut-être pour demain ce que signifie le danger et la précaution dans le monde d'aujourd'hui. Alors, je vais maintenant prendre ce livre et essayer de le feuilleter pour le présenter un peu mieux. Parce que comme ça, je serai un peu plus rigoureux dans mon exposé. Par exemple, il commence par abus. Bon, il y a des citations. Il me semble qu'il y en a une très belle là que je vous propose. C'est la première des citations des mots. C'est une citation de La Rochefoucauld. La Rochefoucauld qui dit « Avant d'attaquer un abus, il faut voir si on peut ruiner ses fondements. » Quand on voit nos politiques, je ne vais pas trop les critiquer, qui évoquent les abus ici et là, puisqu'ils s'invectivent en permanence, je n'ai pas l'impression qu'ils aient lu La Rochefoucauld. Parce que évoquer un abus sans voir d'où ils viennent, ça pourrait être une histoire de boomerang. Voilà. Or, on en est là. C'est que beaucoup d'entre nous discutent sur les abus, mais sait-on l'explication fondamentale? Nous sommes dans une société où l'abus est en tout. Je vous le dis franchement. L'abus, c'est quelque chose d'anormal. C'est quelque chose hors norme. L'abus est en tout. Et notamment, et je vous montrerai que cela peut avoir, vous verrez combien il y a de liens ainsi entre deux mots, il y a un abus de texte. J'évoquais les politiques. Il y a un abus de règlement. Il y a un abus de loi. Aujourd'hui, cette salle Albert Mollat n'est pas susceptible de réunir le journal officiel aujourd'hui. Voilà. Voilà où on en est, sur un rayon. On en est là. Bon. Les 10 dernières années, par exemple. Ce n'est pas possible. Voilà. Alors, vous comprenez bien que aucun d'entre nous n'est en mesure, le plus grand des spécialistes d'une question, n'est plus en mesure de connaître l'état des règles sur un sujet donné. Voilà. Donc, il y a un abus. L'abus des textes, ça nous conduit à raisonner sur d'autres mots comme l'interdit ou encore la responsabilité. Immédiatement, on y pense. Alors, L'abus, dans les textes, ça nous amène à interdit. Regardons ce que pourrait dire interdit. Alors, je vais à interdit. Et je lis la citation de Montesquieu. Toutes les lois de Sylla ne portaient que l'interdiction de l'eau et du feu. Chez les Romains, les premiers Romains, deux interdictions. Et ils vivent bien. Alors vous allez dire, oh, attendez, là, vous abusez. Je mets en évidence cette réflexion. Montesquieu, c'est le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle est caractérisé, lui aussi, par l'abus des textes. Et vous le savez peut-être, la Révolution française de 89 est due en grande partie à la critique que la société fait au colbertisme naissant, qui n'est pas ce qu'il est aujourd'hui, qui fait qu'on a des textes sur tout. On réglemente, je ne sais plus combien il y avait d'articles pour réglementer une pièce de tissu faite à Lille, dans le nord de la France. Les industriels du tissu s'élèvent contre cet abus de la. Il s'agit de faire de la qualité. Donc on multiplie les textes sur tout. Et puis alors, on les multiplie sur tout le territoire, avec des règles différentes, l'abus. Voilà. Montesquieu l'interdit. A-t-on suffisamment réfléchi sur ce qu'est l'interdit? C'est un mot que Dominique Richard me pose, m'interroge là-dessus, dans son interview. Je lui réponds, l'interdit affaiblit fortement la responsabilité. L'interdit affaiblit la responsabilité. Mais l'interdit, c'est aussi quelque chose de commode. Les gens aiment l'interdit. Au bout d'un moment, ils s'accoutument. La preuve en est, c'est qu'on en a partout aujourd'hui, et on vit avec. On le voit presque comme une liberté. Je ne dis pas qu'il n'en faille pas. Mais il ne faudrait pas que l'interdit, et c'est ça la réflexion que je souhaite qu'on ait, il ne faudrait pas que l'interdit annihile totalement la responsabilité de chacun. Il faut que le système de règles dynamique soit une dynamique pour la responsabilité de chacun d'entre nous. Si nous avons trop d'interdits, on sait que la responsabilité sera faible. Avez-vous réfléchi un jour à la situation du prisonnier de longue peine? Le prisonnier de longue peine vit pendant 30-35 ans, il vit dans un champ d'interdits majeurs, absolu quasiment. Sa liberté est quasiment nulle. Bien. Je ne dis pas que c'est mal, que c'est bien, je prends le fait. Quand il quitte sa prison, quand on le libère, qu'observe-t-on? Qu'un sur deux rechute. Prisonnier de longue peine. Hein. Immédiatement, le commentaire qui en est fait, s'il rechute, c'est qu'il y a vraiment des criminels nés. Lombroso apparaît, allez, criminel né. Bien facile, bien facile. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Et je me suis beaucoup interrogé là-dessus. Notamment quand Patrick Henry, un des plus grands criminels après, qui avait tué cet enfant il y a bien longtemps, est sorti après 35 ans de prison. Première chose qu'il fit, c'est de rapporter du haschich d'Espagne et de passer la frontière en se faisant prendre. J'ai dit, mais c'est pas possible, ce type est un abruti. Mais ça ne suffit pas. Il passe la frontière, il se fait prendre et il repart en prison. Il avait passé 35 ans en prison. Il y est toujours. Alors la question qui se pose pour moi est la suivante. Est-ce que dans le fond, inconsciemment, ces gens-là n'aspiraient pas, inconsciemment, à cet espace d'interdit, mais qui est en fait un espace de liberté, parce qu'on est bien dans l'interdit. On vit dans l'interdit. La règle libère. Au passage, Jean-Paul II, en 1992, a fait un texte là-dessus, sur la règle et l'interdit, et c'était un maître, parce qu'il venait de Pologne, où il y avait des interdits partout. Et pour rester sur cet interdit, qui est un mot important, puisque c'est un des mots clés aussi de la précaution, les écologistes demandent de la précaution, et c'est souvent en termes d'interdit. Je m'adresse beaucoup à eux dans ce livre pour leur dire, êtes-vous sûr que l'outil de l'interdit soit le meilleur outil pour faire de la précaution? Je leur pose la question, clairement. Mais j'ai un souvenir aussi, c'est le souvenir d'un de ces dissidents d'URSS qui, en 1985, il s'appelait Zinoviev, il est mort aujourd'hui, avait été reçu en Hollande comme dissident, donc il allait s'installer là-bas, et les autorités hollandaises l'avaient reçu avec beaucoup de marques d'estime et beaucoup de chaleur, et lui avaient donné un pécule après l'avoir installé à l'hôtel, en lui disant, voilà maître, si vous voulez bien aller acheter, alors aux galeries Lafayette du coin, un costume, tout ce qui vous plaît, enfin, on voulait le mettre dans les conditions de l'Occident. On lui donne cette somme d'argent, on le met à la porte, on l'installe dans le magasin, et on lui dit, on vous retrouvera tout à l'heure. À la fin de la journée, on vient le retrouver à l'hôtel, il était à l'hôtel, les Hollandais arrivent avec un large sourire, ils disent à leur maître, vous avez certainement, qu'avez-vous fait alors cet après-midi? Et l'autre avait un air triste, un air très triste. Il s'était ennuyé profondément. Mais qu'avez-vous acheté alors? Et il n'osait pas leur dire, rien. Et vous n'avez rien acheté, mais il ne fallait pas vous gêner, mais pas du tout, ce n'est pas ça. Et c'est Zinoviev qui parle et qui raconte dans le livre suivant, qu'il écrira, il dit, voilà, à Moscou, quand j'étais à Moscou, quand des pommes de terre étaient en vente dans le nord de la ville, on annonçait cela par voie de tambour, et en avant, il fallait que, si on voulait avoir des pommes de terre, on allait au nord de la ville. Mais, souvent on arrivait, il n'y en avait plus, mais surtout, il y avait une espèce de pommes de terre. Or, dans ce magasin, j'en ai vu 10 espèces. Je ne pouvais pas choisir. Et c'est ça qui est intéressant avec l'interdit, voyez-vous, c'est que s'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de responsabilité. Et nous allons alors aller sur la responsabilité. Alors, là, vous voyez, on chemine autrement, on chemine par l'association d'idées. Mais la responsabilité, qu'est-ce que c'est? Citer un grand auteur sur le mot responsabilité, ça m'était facile. Surtout chez les juristes, je n'ai pas voulu. Alors je vous cite simplement ce mot que vous connaissez tous. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. C'est peut-être la meilleure définition de la responsabilité. C'est quelque chose que les juristes ne connaissent plus. Parce qu'on a vidé le mot, chez nous, juristes, de son essence même. Quand on traite de la responsabilité dans un cabinet d'avocats aujourd'hui, il y a très peu de chances que ce soit pour essayer de traiter du comportement des gens. Aujourd'hui, on a des mécanismes de la responsabilité qui conduisent à indemniser sans que le comportement soit véritablement en cause. On a décidé qu'il s'agissait de faire valoir les droits des victimes, ce qui est bien. On a mis en place des systèmes de responsabilité automatique, de responsabilité assurantielle, dans le domaine de l'hôpital, dans le domaine des accidents du travail, dans tous les domaines des accidents de la route. La faute n'intervient plus dans la responsabilité civile. Un peu au pénal, un peu au pénal, si vous permettez. Et encore. Mais bon, tout le régime de la responsabilité civile est totalement décroché du comportement. Mais alors, y a-t-il toujours une responsabilité si le comportement n'est pas en cause? Et je me souviens qu'enfant, quand j'avais eu 7 ans, ma famille m'avait donner une leçon qui ne m'avait pas réjoui. Ce n'était pas pour moi un bon anniversaire, cet anniversaire des 7 ans. Parce qu'on m'avait dit que j'avais l'âge de raison. Et que cet âge de raison, c'était l'âge du devoir. Jusqu'à 7 ans, je découvrais que je n'avais aucun devoir, donc. Quel bonheur, j'étais dans un espace de liberté totale, puisque je n'avais pas de devoir. Mais maintenant, j'aurai des devoirs. L'âge de raison, c'est l'âge de la responsabilité, parce que la raison, sans raison, il n'y a plus de responsabilité. La personne qui est privée de raison n'est plus responsable sur le plan pénal. Parfois, nous voulons juger pénalement des malades mentaux. Ce n'est pas l'honneur de notre société. Mais certaines victimes souhaitent que malgré les diagnostics médicaux, tel malade mental soit jugé pénalement. Nous le savons, nous avons eu cet exemple avec les infirmières tuées à Pau, à l'hôpital de Pau, où peu important le diagnostic des experts médicaux, qui disaient ce garçon-là n'était pas en état de répondre, puisqu'il n'a pas sa raison. La raison, c'est la responsabilité. On a la raison quand on peut dire qu'on a conscience de ce que l'on doit. Mais les facultés de droit n'enseignent pas réellement ça. Ce sont les facultés des lettres et de philosophie. C'est le champ de la morale. Mais n'empêche que, peut-il y avoir, et je l'ai souvent dit, du moins à mes étudiants, peut-il y avoir une responsabilité juridique si nous n'avons pas conscience de ce que l'on doit? Conscience, ça ne veut pas dire qu'on a eu conscience nécessairement, mais on se doit d'avoir conscience. La responsabilité, c'est avoir conscience, plus encore, que l'on doit avoir conscience de ce que l'on doit. C'est un mot très fort, et vous le voyez, si la société avait une bonne compréhension de ce terme, peut-être que nous aurions moins de difficultés, en tout cas plus de facilité pour nous entendre. Parce que c'est peut-être une marque majeure d'irresponsabilité que de voir le désordre dans lequel nous sommes aujourd'hui, du moins dans notre pays. Voilà. Cette conscience de ce que l'on doit, cette conscience que l'on doit avoir conscience, la répétition est essentielle. Parce qu'autrement, ce serait trop simple. Ah oui, mais j'étais pressé. Ah oui, mais j'avais d'autres priorités. Non, c'est autre chose. Ah oui, mais je vois midi à ma porte. Mais bon. Alors, il y a cette notion de responsabilité qui mérite aujourd'hui l'attention et qui est, à mon avis, excessivement mal partagée. Dominique Richard l'a vu lui aussi dans l'interview qu'il m'a faite. Quand il m'a interrogé, il m'a dit « Est-ce que vous ne pensez pas que ce mot est un peu vide de sens aujourd'hui ?» Certainement, mais pas chez moi, en tout cas. Parce qu'il a été pour moi toujours porteur de l'essentiel. Je considère qu'il a fonction de moteur. Sans responsabilité, rien ne fonctionne. C'est peut-être le mot-clé. Aurais-je dû alors l'opposer à danger plutôt que précaution? J'ai hésité, mais c'est peut-être parce que le mot précaution est aujourd'hui le drapeau d'un certain nombre de penseurs sur les sujets du développement que j'ai préféré mettre précaution. Et puis le mot précaution a été installé dans la Constitution française. Ça veut dire qu'il est la norme de la norme. Il est la norme souveraine par rapport à la loi. Ce qui veut dire que nous devons lui accorder de l'attention. Ce que le mot responsabilité n'est pas. Au passage, d'ailleurs, je vous dirais que nous, juristes, nous sommes venus très tard sur ce mot de responsabilité. Il n'est déjà pas dans le Code civil. Il faut le savoir. Dans le Code pénal, il n'y entrera qu'en 1994. Nous sommes venus très tard sur ce mot. Il sera cependant dans la jurisprudence, au travers de la responsabilité civile et pénale. Mais il ne sera pas plus. On est venu très tard. Sur le plan juridique, il est né en Angleterre. Il est né en Angleterre pour qualifier la responsabilité du gouvernement devant, devant le Parlement. Voilà. Donc c'est un mot politique, un mot du droit public, un mot du droit politique, mais ce n'est pas un mot de juriste classique. Ce n'est pas un mot. Il est venu très tard. Donc je suis très à l'aise pour pouvoir revenir sur le fondamental de la responsabilité, qui est, comme je vous l'ai dit, la conscience que l'on doit avoir conscience de ce que l'on doit. Et plus exactement ensuite, plus précisément, et que l'on doit en répondre. Parce qu'avoir conscience de ce que l'on doit sans accepter de répondre, c'est totalement irresponsable. Voilà pourquoi les magistrats sont souvent très sensibles à la repentance du prévenu au pénal du témoin. Voilà. Quand celui-ci marque qu'il a compris sa faute, c'est déjà un élément de la responsabilité. Un élément de la responsabilité, un élément important. Et en ce sens, cela explique cela. Le souci des magistrats, bon, ceux qui ont vu également, ou ceux qui ont travaillé sur l'Inquisition, se souviendront tous que jusqu'au dernier moment, alors qu'on allait mener la personne sur le grill, eh bien on lui tendait le Christ pour qu'elle puisse le baiser et montrer son sens, sa culpabilité et donc son sens de la responsabilité. Voilà. Et comme ça, elle entrait évidemment au paradis ou au moins au purgatoire. Et c'était ça, l'esprit de la... l'esprit qui explique ce geste de la croix en direction de celui qui allait être supplicié. Voilà. La responsabilité, voyez-vous, aurait pu entrer dans le titre de ce livre, mais voilà les raisons pour lesquelles je l'ai écarté. Est-ce que ce mot n'est pas alors, puisqu'il est vide de sens, comme me le disait, me posait la question Dominique, Richard, est-ce qu'il serait une fiction ? Question qu'on peut poser. Voilà un autre mot qui se trouve dans ce livre. Est-ce que serait une fiction ? L'Ecclésio nous dit, la réalité est la base et le carburant de la fiction. L'Ecclésio, prix Nobel. La réalité est la base et le carburant de la fiction. Ce qui veut dire qu'il y a de la fiction partout. Il y a de la fiction partout. Eh bien, ce mot m'est apparu essentiel dans le discours du danger et de la précaution lui aussi. Ce mot m'est apparu essentiel parce que sans fiction, il n'y a aucune anticipation possible. Aucun d'entre nous, s'il n'y a pas une fiction devant lui, n'est capable de regarder devant lui. Tout ce que nous disons en termes de prévision est nécessairement de type fictionnel. Parce que ce n'est pas la réalité. Nous projetons devant nous des fictions. Voilà. Et alors, c'est d'autant plus facile aujourd'hui qu'avec la télévision, tous les médias, il n'y a que de la fiction. Nous sommes que dans ce domaine. Alors, vous voyez, regardez par exemple toutes les scénarios catastrophes, fictionnesque, là aussi, sur lesquels on demande de raisonner, de réfléchir. Toute notre vie ne serait-elle que fiction, alors ? Tout ce que nous voyons par les médias ne serait-il... Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est de la fiction ? Ça, c'est un grand sujet, tout le monde le sait. Nous vivons dans un monde irréel, donc fictionnel. Ce mot n'est pas suffisamment utilisé, mais est-ce que ce ne serait pas ça qui expliquerait... C'est la question que je me pose, évidemment. Est-ce que ce ne serait pas cela qui expliquerait cette coupure que beaucoup d'entre nous ont avec le réel et ce souci que nous avons de temps en temps, quand on emploie ce mot, à nous ressourcer, à revenir sur le concret, à souhaiter des exemples concrets, ce qui est une absurdité parce que tout exemple est concret. Mais voilà, ce souci, parce que nous sommes dans le fictionnel, nous n'avons pas de réel. Ce que nous voyons à la télé, c'est quoi ? C'est quelque chose qui nous est imposé, mais qui relève de l'esprit de celui qui l'a construit, mais est-ce que c'est ça la réalité? J'y pense d'autant plus que quand je regarde quelques images en boucle de ce qui se passe en Syrie, sommes-nous capables de dire ce qui se passe en Syrie par ces quelques images en boucle? Très honnêtement. Tous ceux qui ont travaillé sur le réel savent bien que tout cela, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Voilà. Alors, ce mot, mais n'oubliez pas que la fiction, il n'y a de fiction que s'il y a un peu de réalité. Un autre mot m'est apparu dans ce domaine du danger et la précaution, c'est le mot foule. Vous voyez, a priori, il est un peu éloigné. Et pourtant, quoi de plus dangereux qu'une foule? Moi, j'avoue, j'ai peur d'une foule. Toutes les fois que je suis au sein d'une foule, j'ai peur. Parce que le mouvement de la foule, c'est un peu comme le mouvement d'une masse inerte qui va vous écraser sans que vous en rendiez compte. La foule n'a pas d'âme. La foule n'a pas de raisonnement. La foule est un mouvement, elle n'est rien d'autre. Elle n'est pas une personne, et pourtant il y a des personnes. Vous savez d'où vient ce mot? C'était des personnes qui se foulent, parce qu'elles sont rassemblées, le se fouler, c'est se rassembler. Donc le mot est venu de là, c'est intéressant. Mais quoi de plus dangereux? J'ai envie de vous lire ce passage de Durkheim. Durkheim, c'est un sociologue, pour ceux qui ne le sauraient pas. Je pense que tout le monde le sait. Par le seul fait de se sentir entouré de ses semblables, l'individu perd beaucoup de la conscience et de la réflexion nécessaire à l'exercice de ses facultés supérieures. Bon, voilà. Vous avez vu certaines foules. Vous allez en voir au moment des élections présidentielles. Vous allez en voir. Voilà. Eh bien, vous souviendrez de ce que je viens de vous lire. On perd une grosse part de nos facultés essentielles. Et oui, mais quoi de plus dangereux? Il y a eu des catastrophes liées aux foules, vous le savez bien. Tout le monde a le souvenir de ces foules qui se déplacent. On ne sait pas d'ailleurs pourquoi. Il y a peu de temps encore, des enfants jouaient avec des pétards. On a cru que c'était des actes terroristes. Immédiatement, il y a eu des gens... Pas eu de mort, heureusement, mais enfin, on a vu que des gens se sont précipités dans des restaurants, ont cassé tout, c'était la panique. Nous étions dans la panique. Et une foule paniquée, c'est plus dangereux encore qu'une foule tout court. Mais une foule tout court est dangereuse. Alors on n'y fait pas, on ne sait pas traiter le sujet. Nous sommes dans une société où le collectif joue un rôle important. Nous ne savons pas traiter le sujet. Nous avons des règles, mais par définition, une foule est incapable de se soumettre aux règles, puisqu'elle n'a pas d'âme, elle n'a pas de responsabilité, elle n'a pas de raisonnement. Alors voilà pourquoi on a des règles qui sont ce qu'elles sont, mais on met des gendarmes, on met des policiers, on met des barrières. Ce n'est pas pour autant qu'au sein de cette foule, le danger n'est pas là. Et ça, c'est très important. Alors, on essaie de réduire, on essaie de compartimenter la foule. Mais la foule, est-ce que ce n'est pas aussi du virtuel et de la fiction? Quand nous entendons les internautes, quand nous lisons des tweets, quand nous lisons les discours sur les sites de convivialité des masses médias, ils sont seuls, mais il y a une foule. Et la pensée est inerte. Que disent-ils? Qu'y a-t-il comme richesse? Qu'y a-t-il comme enrichissement? Qu'y a-t-il comme échange? Eh bien, malgré tout, malgré cela, nos radios, nos télés, nous lisent tous les jours des tweets on s'amuse sur des mots qui ne veulent rien dire, qui ne savent pas où ils vont, qui peuvent tuer, qui peuvent faire mal, qui sont là. C'est la foule. Il y a aussi cette foule virtuelle. Il y a la foule fiction. Ça existe. C'est très dangereux. Ce sont des collectifs qui ne sont pas des collectifs. Parce qu'un collectif doit être structuré, doit avoir une âme, doit avoir une pensée. Un collectif, c'est une personne morale, par exemple. Une personne. Une organisation. Avec des objectifs, avec des buts qui sont devant. Mais la foule. Alors, j'ai mis aussi le mot guerre. De foule, je vais à G. Et je pense à ce que disait Lyoté. Il y a ici, dans cette salle, quelques amis marocains. Lyoté, bien connu du Maroc, pour avoir, si vous voulez, participé à son développement, non pas en colonial, mais en résident d'un protectorat qu'il respectait. Ils sont fous, complètement fous. Une guerre entre Européens est une guerre civile. C'était en 14. Voilà. Et je rends hommage à Alain Faupin, un de mes amis qui est décédé, qui était général et qui m'a aidé dans ce livre. Je le remercie. Voilà. À la fin de ce livre. La guerre. Aujourd'hui, on peut penser que nous sommes en guerre depuis déjà pas mal d'années, n'est-ce pas? Mais personne ne le dit. On le nie. Qu'est-ce qu'une guerre? Y a-t-il, a-t-on quelques précautions? Entend-on les gens qui sont si avides de ce mot précaution évoquer le même ce mot pour discuter de ce sujet de la guerre? Dans le monde d'aujourd'hui, avec la France au premier rang. Jamais. Je ne dis pas que cette guerre que nous menons doit être, est injuste et doit être revue dans ses fondements. Je ne dis pas. Je ne prends pas. Je ne me prononce pas sur la valeur de la question. Je dis simplement qu'à aucun moment la précaution n'est invoquée. Voilà. Aucun moment. Ce qui veut dire que le sujet de la guerre serait étranger à ce mot. Il serait étranger à ce mot. Ce n'est pas quelque chose qui est satisfaisant. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Surtout quand on voit ce que disait Lyoté en 1914. Ils sont fous. Ils sont fous. C'était un général. C'était un militaire. Voilà. Et nous savons, malheureusement, par l'expérience de ces 4 années et demie de guerre, nous savons qu'il avait raison. Donc, cette précaution que j'invoque mériterait d'avoir son champ élargi. Malheureusement, elle est le plus souvent utilisée, envisagée pour des questions purement environnementale, seulement environnementale, alors qu'elle devrait être partout. Mais son champ d'action, c'est l'environnement. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Ce sont les libellules, ce sont les hannetons, ce sont les petits oiseaux. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Le mot est faible dans son champ d'action. Nous le voyons avec la guerre. Nous le voyons. Je voudrais encore venir sur des mots qui m'ont beaucoup amusé. C'est le mot diable. Pourquoi le diable? Bien sûr qu'il ne fallait pas le diable. Je voudrais qu'on... Parce que le diable, c'est le plus malin d'entre nous. D'ailleurs, on le dit toujours, c'est un diable en ce sens que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un bon petit diable, c'est un petit peu plus malin que les autres. Voilà. Alors, ce diable... Moi, il m'a toujours impressionné parce qu'on ne connaît Dieu que si on connaît le diable, en fait. Si vous cherchez Dieu, allez voir le diable, vous verrez un peu qui il est, Dieu. Voilà. Et d'ailleurs, les religions monothéistes ont tout un diable.
Et si le diable disparaît, Dieu disparaît. Est-ce qu'on s'en rend compte? On a voulu tuer le diable, il n'y a plus de diable. Tous les gens sont bons aujourd'hui. Il n'y a plus de diable, mais y a-t-il un Dieu aujourd'hui? Je me pose la question. Il y a un lien étroit entre ces deux. La Rochefoucauld encore. J'ai cité deux ou trois fois la Rochefoucauld. Il semble que c'est le diable qui a tout exprès placé la paresse à la frontière de plusieurs vertus. Bon, et oui, tant mieux qu'on soit paresseux de temps en temps. Parce que imaginons qu'on n'ait que des vertus. Ce ne serait pas très, très... Heureusement que nous avons des faiblesses. Je crois que c'est très important, mais le mot diable, c'est, ne l'oubliez quand même pas, le référentiel de Dieu. Et quant à Dieu, il y est aussi dans ce livre. Il y est dans ce livre. Pourquoi y est-il? Ah, il y est parce que derrière, et c'est la question que me posait Dominique, derrière il y a fatalité. Alors Dominique me dit, vous n'avez pas mis fatalité. Non, je ne l'ai pas mis, mais j'ai mis Dieu. J'ai mis Dieu, et la fatalité, c'est bien sûr parce que Dieu l'a voulu. Inch'Allah. Inch'Allah. Dieu l'a voulu. Donc, Dieu existe ou n'existe pas. S'il existe, il peut beaucoup de choses. Le fait-il? Grande question. S'il fait tout, sommes-nous responsables? Autre lien important. Si Dieu fait tout, si Dieu nous détermine, nous n'avons plus de responsabilité. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait que la responsabilité individuelle soit le moteur et collectif, soit le moteur de nos comportements. Mais alors Dieu, où est-il? C'est compliqué. S'il détermine tout, nous ne sommes pas responsables. Mais s'il ne détermine pas tout, on peut le lui reprocher puisqu'il pourrait. Il pourrait nous empêcher de faire la guerre de 14. Il aurait pu nous empêcher de faire la guerre de 14. Il aurait pu empêcher Hitler. Il pourrait empêcher Daesh. Mais il ne le fait pas. Ah, c'est intéressant. Tant mieux, parce qu'il nous laisse libres. Imaginons ce que serait notre société si Dieu nous déterminait en tout, ou le diable. Le diable est là, justement, parce qu'il nous permet, il permet à notre liberté de s'exercer ailleurs que dans les intentions de Dieu. Tant mieux. Mais pas trop. Il faut qu'il y ait un équilibre. C'est ce que l'on recherche. Mais Dieu est passionnant de ce point de vue, quand on le regarde au travers de la responsabilité. Tous les grands mystiques l'ont dit. Tous les grands mystiques ont vu la faiblesse de l'homme, puisque Dieu leur laisse la liberté. Nous laisse la liberté. Et si nous avons cette liberté, je ne m'adresse pas à ceux qui pensent que Dieu n'existe pas, mais si ceux qui pensent que Dieu existe réfléchissent un peu, ils savent tous que Dieu a voulu qu'on soit libre et que c'est le principe de notre responsabilité. Je pense que les religions monothéistes sont dans ce schéma, et notamment les deux religions qui sont représentées ici, l'islam et le christianisme. Et je crois que c'est aussi ce qui doit interpeller l'humanité, puisque les sujets de ces mots MAUX, maintenant, relèvent de sa responsabilité. De sa responsabilité. Évoquer, évidemment, des sujets de la nature, c'est évoquer Dieu. Le réchauffement climatique, il y a une part de la nature, donc peut-être de Dieu, mais il y a une part aussi de l'homme pour un certain nombre de ses activités qui ne peut plus être niées. Voilà. Je m'amuse, vous le voyez, à opposer de manière très insuffisante, bien entendu, parce que je ne fais que une réflexion un peu superficielle, mais je crois que ce qui est intéressant quand on ouvre ces deux mots de danger et de précaution, c'est qu'on est amené comme ça à évoquer toutes sortes de choses. Et il y a un autre mot sur lequel je voudrais venir, tiens, parce que ça a été toute ma carrière aussi, mais le mot éducation. Le mot éducation, J'écoutais hier en voiture Jacques Attali évoquer la campagne présidentielle. Sans être ni partisan. Et il disait, voilà, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que aucun candidat n'évoque l'école primaire, l'école maternelle, l'école primaire, le lycée et l'université. Or, tous nous parlent de l'avenir. C'est intéressant, Attali, toujours, parce qu'il va toujours un peu à contrepoint, à contre-pied des gens. C'est assez intéressant. Alors, il se trouve que dans ce livre, il y a un passage assez important sur le mot éducation. Voilà. Assez important parce que j'en ai fait 4 ou 5 pages. Il faut savoir qu'au départ, il y a eu l'instruction. Puis, c'était sous l'Ancien Régime, l'instruction. L'instruction sous l'Ancien Régime. Ensuite, il y a eu l'éducation avec Napoléon. Napoléon, un système d'éducation avec un ministère de l'enseignement supérieur, qui n'a jamais eu, depuis Napoléon, certainement, autant de liberté en France. Ça, on ne le sait pas. Pour l'enseignement supérieur, pas pour les lycées, pour l'enseignement supérieur. Ensuite, il y a eu l'instruction qui est revenue en France, sous la Troisième République, l'instruction publique. Et ensuite, il y a eu la formation qui est arrivée avec les systèmes de formation continue, formation. Donc, vous avez donc à la fois le mot éducation, le mot instruction et le mot formation. Et tout ça, au travers plus ou moins de ces deux autres mots que sont danger et précaution. Or, on nous dit toujours, aujourd'hui, tout le monde nous dit, dans un monde dangereux, il faut former les gens. Pour la précaution, il faut qu'ils soient éduqués. On entend ça comme ça. Bon, très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans notre système? Et je renvoie à Attali. Je ne lui répondais pas, j'étais en voiture avec la radio. J'étais en lien complet avec lui quand il parlait. Parce qu'il disait, il faut donner à chaque niveau de formation des objectifs qui sont en relation avec un but. Ce but, c'est l'homme complet, demain. C'est-à-dire qu'on ne forme pas un enfant à l'école maternelle simplement pour accéder au niveau supérieur de l'école primaire. Mais c'est l'homme complet, demain, plus loin, que sera-t-il? Un homme dont on sait aujourd'hui qu'il devra changer plusieurs fois de métier, qu'il devra changer peut-être de culture en allant dans d'autres pays. Voilà ce qu'est un homme complet. C'est excessivement compliqué. Ce n'est plus du tout le modèle ancien. Mais l'éducation, mais instruction, mais formation. L'instruction, c'est apprendre à écrire, à lire. L'éducation, c'est apprendre à raisonner dans un système complexe. Et la formation, formatée, c'est être apte à un métier. L'éducation ne donne pas un métier. L'instruction ne donne pas un métier. La formation donne un métier. Ces trois mots n'ont plus de signification. On les emploie, on ne sait comment. Voilà. Trois mots essentiels. Je pourrais en dire beaucoup parce que, évidemment, quand on a enseigné, comme je l'ai fait pendant, je n'ose pas dire combien d'années, mais enfin, j'ai arrêté il n'y a pas si longtemps, c'est long. Et j'ai toujours dit à mes étudiants, et je le dis, quelle que soit la structure où je pouvais aller, et j'ai enseigné pas simplement dans l'université, mais aussi dans des écoles d'ingénieurs ou encore des écoles de management, nous ne sommes pas là pour vous donner un métier. Le métier, vous l'apprendrez sur le tas. On vous donne un profil de raisonnement, une capacité de raisonnement, dans un champ plus ou moins large, c'est vrai, mais le métier, ce n'est pas le formateur, ce n'est pas même le formateur qui peut le donner. Voilà. Car c'est sur le tas. Vous êtes médecin, vous êtes avocat, vous serez demain ingénieur. Nous apprenons un certain nombre de choses et nous savons tous que selon l'endroit où nous allons tomber, je suis généraliste, médecin, ou je suis à l'hôpital, je n'ai pas besoin des mêmes savoirs, ni des mêmes capacités, ni du même raisonnement nécessairement. Ce n'est pas le même. J'ai besoin de base, mais j'ai surtout besoin d'une forte capacité de raisonnement. Il me faut de l'instruction, il me faut du raisonnement, il me faut de l'éducation. Et l'éducation, ça va plus loin d'ailleurs, vous le savez très bien. Ça ne peut pas être simplement l'appareil public ou l'appareil universitaire, privé, peu importe, qui vous la donne. L'éducation, c'est culturel aussi. La culture est un élément fondamental du sujet du danger de la précaution. Croyez-vous qu'aujourd'hui, en Syrie, en Irak, en Afrique noire, dans ces parties du monde où la vie n'est pas facile, on puisse faire une discussion comme ce soir sur danger et précaution? Moi, je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Je me sens incapable. Je dirais même que ce serait presque une injure que je ferais aux gens qui seraient en face de moi. Parce que le sujet n'est pas là. Quand il y a de la misère, c'est un sujet de riche qui est le nôtre. Quand il y a de la misère, on se dit qu'il faut moins de misère. C'est tout. La précaution est en tout, le danger est en tout, on ne raisonne plus sur le sujet. C'est autre chose. On est dans la nécessité, c'est un autre monde. Je ne pourrais pas me permettre d'aller faire cette discussion devant une salle comme la vôtre, dans ce monde-là. En revanche, la culture irradie, bien entendu, et la culture française, plus peut-être encore, sur le sujet de la précaution et du danger. C'est quand même pas un hasard. Si Chirac a accepté de mettre dans la Constitution ce mot, il n'est dans aucune autre Constitution du monde. N'y a-t-il pas une interrogation à avoir? Nous sommes certainement le pays qui fait le plus de règles, et je l'ai déjà dit, au monde. Peut-être que certains pays survivants du communisme ont encore la capacité de nous battre, mais c'est tout. Nous faisons tant de règles que nous avons pensé que, comme elles sont bien sûr insuffisantes, ce qui est évident, le communisme a bien montré que la multiplication des règles ne permettait pas l'efficacité, comme nous ne pensons pas, comme nous ne réfléchissons pas à ce constat du communisme, nous avons introduit le mot précaution. On a dit, oui, mais alors, s'il apparaissait, malgré toutes les règles qu'on a faites, et elles sont nombreuses, qu'il y a quand même à faire quelque chose, eh bien, il faut que le principe de précaution puisse dire, on ne fera pas, on interdira. Voilà. Donc, de nouveaux interdits, c'est la source de nouveaux interdits. Et ça, c'est très culturel. La France, en effet, est le seul pays au monde qui ait cette formule étonnante, extraordinaire. Vous pouvez passer une frontière et voir dans une quelque autre langue, si vous me dites que la traduction est possible, vous me le direz. À ce jour, je n'en ai pas la preuve. Le problème est réglé. Ça veut dire que quand un politique, vous posez une question à un politique, je dis un politique parce que c'est en général celui-ci qui est devant les plateaux de télé et ailleurs. Vous posez une question à un politique. Il y a un problème dans ce truc. Le problème est réglé. Il vous dit, pourquoi? Parce qu'on a fait une ordonnance, on a fait une loi, on a fait un décret. Et il vous cite le décret. Ah bon? Mais c'est bien d'avoir fait un décret, a-t-on envie de dire. Mais, est-ce que vous pensez que parce que le texte est au journal officiel, le problème n'existe plus? Ah, là, c'est un autre sujet, parce que ça voudrait dire qu'on a évalué l'impact du texte, et déjà qu'on s'est assuré qu'il était appliqué. Mais quand on sait, par exemple, que nombre de lois n'ont pas les décrets nécessaires pour être appliqués et que le Parlement n'est pas informé de la parution des décrets et n'a aucune information autre que celle du empirique, d'un coup de téléphone, est-ce que vous les sortez quand ? Il n'a aucune information au nom de la séparation des pouvoirs. Donc vous voyez, le problème est réglé, passionnant. Ça, c'est très culturel quand vous avez cet élément de culture. Et alors, sur la culture, j'ai une autre histoire à vous donner qui concerne l'affaire AZF. L'affaire AZF, vous savez ce que c'est, le procès ressort, là, au mois de janvier prochain, à Paris, pour 4 mois, parce qu'il y a eu une cassation, il y a eu, il faut dire, des épisodes tellement ubuesques que la Cour de cassation a mis un peu l'eau là, tant mieux, heureusement qu'on a une Cour de cassation qui encore réfléchit un minimum. Bien, donc, on était quelques mois après l'explosion, et le ministère de l'Environnement, le ministère des Risques, m'avait demandé d'animer quelques débats que j'ai animés, et l'un à Toulouse était assez redoutable. Il y avait une salle de 700 à 800 personnes, il y avait des drapeaux noirs et des drapeaux rouges partout. Il y avait les gens de Total qui étaient cachés dans un coin qui ne se montraient pas, les gens de la SNPE qui étaient là mais qui se faisaient petits. Bon, il y avait le ministère qui jouait les grands ordonnateurs, et puis moi-même j'étais là, à cette place, avec quelques personnes qui devaient débattre, et m'avaient demandé d'animer. Ça hurlait dans tous les sens, on ne s'entendait pas. Le directeur général des risques de l'environnement, un type assez remarquable, Philippe Vesseron, X-Mine, grand personnage, me dit, venant avec un large sourire, parce qu'il se délectait de voir le désordre, il s'amusait beaucoup, vous devriez leur dire qu'il faut qu'ils adoptent une culture du risque et pas une culture de la sécurité. Ah, voyez-vous la nuance ? La culture de la sécurité, c'est en effet une culture où les gens ont le sentiment qu'on les protège et qu'on doit les protéger. Si ce n'est pas suffisant, on doit les protéger. L'État doit tout. La culture du risque, c'est une autre culture. C'est une culture plus de la responsabilité de chacun, où chacun doit se dire, j'ai construit ma maison pas loin d'une usine, et bien si elle explose, j'ai construit ma maison pas loin d'une usine. Moi, vous croyez que c'est le moment d'aller faire un discours sur le risque et la sécurité? Je vais me faire lyncher. Vous m'avez mis là, ça m'amuse, comme vous, ça vous amuse. En vérité, le gouvernement faisait ça tout simplement pour que les gens s'épuisent à hurler. Il valait mieux qu'ils s'épuisent à hurler dans une salle qu'aller casser des ministères ou des préfectures. Voilà, c'était ça, le but, c'était ça. Mais voyez combien la culture pèse. Alors on reproche beaucoup aux Français d'attendre toujours plus de règles parce qu'ils seraient dans une culture de la sécurité. Voyez cette association d'idées, des mots, culture risque, culture sécurité, culture interdit, culture règle, culture responsabilité. On est en permanence dans ce mouvement, dans cette interactivité des mots. C'est la fin. Mais j'ai un mot que je vous réserve parce que celui qui m'a inspiré ce mot est dans la salle. Et il se reconnaît, enfin, je pense qu'il se reconnaît déjà, c'est le mot alcool. Il y a le mot alcool. Il y a mon ami, le professeur Narbonne, qui est là, grand toxicologue, bien connu, et pourquoi avoir mis le mot alcool ? Pourquoi avoir mis le mot alcool dans un ouvrage sur le danger et la précaution ? Alors, parce que l'alcool tue, nous dit-on. Parce que Bourvil nous a dit, n'est-ce pas, L'ophérogénèse, oui. L'alcool, non. On connaît ça, bien. Mais j'ai appris grâce à Jean-François Narbonne que l'alcool est un médicament extraordinaire, a été longtemps une thérapeutique extrême, magnifique. Heureusement qu'on l'avait. Et que l'alcool est en tout, même dans le Coca-Cola. Voilà ce que je voulais vous dire avec, pour vous montrer que ces mots, tout est danger ici, mais tout n'est pas danger. En vérité, il y a dans danger et dans précaution les deux faces. C'est ça la conclusion, il y a deux faces. Les deux faces de toute autre aventure sur cette terre. Le plus et le moins. Le plus et le moins. Quand nous faisons le bilan, nous avons beaucoup de bonheur, beaucoup d'ennuis, beaucoup de peine. Voilà, tout est comme ça. Et ces deux mots nous traduisent bien cela. Mais je vous réserve pour la fin un texte de Pompidou à Chaban-Delmas. On est dans la ville de Chaban. Chaban était Premier ministre et Pompidou président. Et je ne vais pas tout lire, mais je vais vous donner envie d'aller plus loin. Mon cher Premier ministre, j'ai eu par le plus grand des hasards communication d'une circulaire du ministre de l'Équipement, dont je vous fais parvenir photocopie. Cette circulaire, présentée comme un projet, a en fait déjà été communiquée à de nombreux fonctionnaires chargés de son application, puisque c'est par l'un d'eux que j'ai appris son existence. Elle appelle de ma part de réflexion. Bon, alors là, je vous quitte les réflexions. Et voilà. Il en ressort en effet que, selon cette circulaire, l'abattage des arbres le long des routes deviendra systématique sous prétexte de sécurité. Voilà. Il est à noter, par contre, que l'on envisage qu'avec beaucoup de prudence et à titre de simple étude, le déplacement des poteaux électriques ou télégraphiques. Cher Pompidou, a-t-on envie de dire ? Puis c'est bien écrit. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ceux qui lui ont succédé, bon. C'est que là, il y a des administrations pour se défendre, pour les poteaux électriques. Et on sait qui c'est. C'est une sacrée administration. Les arbres n'ont, semble-t-il, d'autres défenseurs que moi-même. Et il apparaît que cela ne compte pas. Il est président de la République. La France n'est pas faite uniquement pour permettre aux Français de circuler en voiture. Et quelle que soit l'importance des problèmes de sécurité routière, cela ne doit pas aboutir à défigurer son paysage. Voilà. J'évoque dans ce... J'ai pris le mot arbre. Le mot arbre est venu dans ce chemin des mots, dans ce roman des mots, parce que Pompidou m'a conduit à le mettre. Le mot arbre est en fait le symbole de tous ces sujets sur lesquels on passe sans les voir maintenant. On ne voit pas ce qu'ils ont d'essentiel pour notre vie. Il y a beaucoup d'autres choses. J'aurais pu prendre la mer, j'aurais pu prendre l'océan, j'aurais pu prendre une rivière, j'aurais pu prendre le hanneton. J'ai pris l'arbre. Parce que l'arbre, c'est quelque chose de symbolique. D'ailleurs, on le construit, il est... Voilà. On a des arbres généalogiques, on pense à l'arbre dès qu'on pense à l'homme. Il y a quelque chose de très proche entre l'homme et l'arbre. Et l'arbre, c'est le faible. C'est ce que dit Pompidou. Personne n'est là pour le défendre. Il y a beaucoup de sujets où il n'y a personne qui défend le sujet. Il n'y a personne qui défend le sujet. L'absurdité est en tout. Il y a peu de temps, vous avez vu qu'on a voulu transporter un grand bateau d'un chantier naval en Vendée. Malheureusement, il ne passait par aucune route. Il a fallu couper les arbres. Les platanes qui avaient 150 ans. quitté il y a quelque temps. Voilà la précaution encore, vous l'avez compris, de bonnes utilités. Mais vous avez aussi compris que son emploi aujourd'hui est abusif, c'est le premier des mots. Son emploi est abusif. Son emploi n'est pas orienté nécessairement dans la meilleure condition pour une raison simple. Et il revient vers un des mots que j'ai évoqué, parce qu'il conduit à l'interdit et à l'irresponsabilité. Je vous remercie de votre attention.